de lumière et de vérité. Éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Tu es aussi l'Esprit de sainteté, c'est-à-dire tu nous communiques cette sainteté de Dieu. Tu nous rends obéissants à sa volonté et tu nous donnes la victoire dans nos combats. Que ton esprit d'amour, Père, ton esprit d'amour, de joie, de paix, brille en nous en écoutant ta parole. Amen. Donc le texte que nous allons méditer se trouve dans Marc, au chapitre 12, les versets 28 à 34.
Chapitre 12. Un scribe s'avança. Il les avait entendus discuter et voyait que Jésus leur avait bien répondu. Il lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : le premier, c'est : écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, très bien maître, tu as dit vrai. Il est unique. Et il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.
Voilà, j'avais préparé une prédication pendant toute une journée, et puis cette nuit j'ai pensé encore à ce texte, et puis je me suis dit, t'as loupé l'essentiel. C'est la dernière parole, personne n'osait plus l'interroger. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que on nous dit que personne n'osait plus interroger Jésus après qu'il ait ainsi répondu aux scribes ? Ce scribe l'interrogeait sur le plus grand commandement et il était arrivé avec la sagesse qui se trouve dans son peuple, dans le peuple juif, la sagesse qui se trouve chez les rabbins, à résumer tous ces nombreux commandements. Il y en a 613, il les a résumés. Ils connaissaient ce résumé, les rabbins avaient déjà fait le résumé de ces 613 commandements. Ils disaient, le premier c'est tu aimeras le Seigneur et le deuxième c'est tu aimeras ton prochain. Ils demandaient le plus grand et Jésus lui en a donné deux. C'est pour ça que j'ai insisté sur le pluriel et le singulier dans le psaume 119. Qu'elles sont douces à mon palais, ta parole. Elle au pluriel et ta parole au singulier. Une parole de Dieu peut être décomposée en plusieurs paroles. La parole de Dieu est une et multiple. Et on le voit là. Jésus donne deux commandements. et dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Il faut être un moment devant, imaginez cette foule qui est devant Jésus, ce scribe qui a posé la question et plus personne n'ose l'interroger. Parce qu'on a parlé là de l'essentiel, amour de Dieu, amour du prochain. Et Jésus dit, c'est le royaume de Dieu, cela. Et il dit au scribe, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est cette dernière phrase qui a provoqué un grand silence. On arrête d'interroger, on arrête de discuter là. On doit contempler. Celui qui vient de s'exprimer en dernier, et qui, Jésus qui a dit, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu avec la sagesse que Dieu a donnée au peuple juif. Vous pouvez aller très loin dans la sagesse de Dieu. Mais vous en êtes toujours à côté. Et je voudrais illustrer cela par cette coupe. Et voilà une bonne bouteille de vin qu'on m'a offert récemment. Alors je mets cette bouteille ici. Vous pouvez voir que cette bouteille, elle est très loin de la coupe. Alors, on peut faire mieux, on peut rapprocher la bouteille. Voilà, la bouteille est très très proche de la coupe. Est-ce que ça change quelque chose à la situation pour la coupe? Est-ce que la coupe, ça a changé quoi que ce soit pour elle? Non. Le vin était loin, maintenant il est tout près, mais il n'est toujours pas dans la coupe. Ça n'a rien changé. Ça change quoi d'être proche de la sagesse, mais de ne pas l'avoir en nous, ou de ne pas être dans cette sagesse, inclus dedans? Ça change rien. D'être proche ou loin. C'est pour ça, tout d'un coup, il y a eu un silence quand Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, car maintenant il ne s'agit plus de parler. Il faut que quelque chose se passe pour que cette bonne bouteille, elle aille dans la coupe. Il faut qu'une opération se produise. Qu'une action soit exercée sur cette bouteille, que pas simplement la rapprocher, pas simplement une fois elle était loin, maintenant elle est proche, ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une bouteille entre dans une coupe? Il faut d'abord un couteau. Eh bien, il fallait donc une opération qui se produise sur la bouteille pour qu'elle ne soit pas simplement à côté de la coupe, mais que maintenant le contenu de cette bouteille soit dans la coupe. Mais écoutez, un verset dans la loi elle-même, c'est Deutéronome 30, verset 6, il faut aussi un couteau pour cette opération. Mais ce n'est pas l'homme qui tient le couteau. Le Seigneur, ton Dieu, te circoncira le cœur à toi et à ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. J'arrête de vous faire peur avec ce couteau. Mais pour circoncire, il faut un couteau. J'ai assisté un jour à une circoncision, il faut un couteau, si possible, bien aiguisé, sinon ça ne marche pas bien. Et là, Dieu circoncit quoi? pas le prépuce comme dans les circoncisions physiques que l'homme peut pratiquer. Il y a une circoncision que l'homme ne peut pas pratiquer. C'est couper le cœur. Et Dieu seul peut pratiquer cette circoncision. Ça, c'est dans Deutéronome 30, verset 6. Donc, vous coupez un morceau du cœur, ça veut dire le cœur, il est mort. Ah oui, il est mort. Donc, il y a forcément une mort. Et c'est devant cette mort et cette résurrection que tout d'un coup, les gens ont arrêté de parler devant Jésus. Ils ont arrêté de parler de l'amour. Ils étaient devant celui qui vivait. Toute cette grande sagesse dans laquelle ils se sont rapprochés, mais qui leur restait encore étrangère, parce qu'elle n'est qu'en lui. Cette sagesse, elle n'est vécue dans la chair, vécue en esprit, vécue pour toujours, car l'amour dont nous parle la Torah elle-même, c'est un amour qui dure toujours, et un amour sans faille. Et Jésus parlera même de l'amour pour les ennemis qui caractérise cet amour-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et associé à l'amour pour ceux qui nous ont fait du tort. Dans Lévitique 19. Je lis Lévitique 19. Versets 17 à 18. Aime ton prochain, c'est dans Lévitique 19. C'est noyé dans plein d'autres commandements. Il ne faut pas se couper les coins de la barbe. C'est pour ça que vous voyez les juifs avec les peyotes. Les juifs très très pratiquants. Donc vous voyez plein d'autres commandements qui sont vraiment très particuliers. Et puis au milieu, tout d'un coup, il y a ces versets, Lévitique 19, versets 17 à 18, « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton prochain pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. » C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Qui peut dire qu'il met ça en pratique? Jamais de rancune. Jamais. Jamais. La vengeance, je connais. Oh, on peut se venger de façon très subtile. Oula. Parfois, je vois que je me venge sur ma femme de façon très, très subtile. Oui. Non, nous connaissons tous ça. Tu ne garderas aucune rancune. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de rancune? Lui. Celui qui est sur la croix. Regardez-le. Regardez-le. La façon dont on l'a humilié et dont on l'a fait souffrir, il n'a pas insulté. Les badauds qui assistaient aux crucifixions, ils se gênaient pas pour se moquer et insulter les gens qui étaient nus, dans la souffrance, en train de mourir. Ils les insultaient. Ils rigolaient d'eux. Les psaumes que nous méditons dans le groupe de prière parle même, le psaume de la semaine passée, il y a même les ivrognes qui mettent en chanson le juste. Ils rigolent dans leur beuverie, ils rigolent du juste. Jésus a-t-il eu de la rancune? Le seul qui peut dire j'ai aimé mon prochain comme moi-même, dans le contexte où ça se trouve, c'est Jésus. C'est lui seul. Pour nous, c'est un étranger, Jésus. Et il se met lui-même en scène dans la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, moi on appelle ça comme ça maintenant, mais celui qui était vraiment à l'article de la mort, blessé au bord de la route, qui l'a aidé? C'est celui qui était le plus loin de lui. Parce qu'il n'est pas de son peuple, le Samaritain. Jésus n'est pas de notre peuple, il n'est pas auvergnat. Il est venu nous aider. Il est venu nous secourir. Il nous a aimés alors qu'il est immigré. Pour nous, un immigré, un étranger. Et dans Lévitique 19, vous avez aussi l'ordre d'aimer l'étranger comme soi-même. Vous regardez dans Lévitique 19, au verset 34, « Tu aimeras l'immigré comme toi-même. » L'immigré, c'est celui qui vient profiter du pays que nos ancêtres et moi, nous avons construit. Encore quelqu'un qui vient nous faire du tort, ben vous l'aimerez. Et Jésus est un étranger. Il est devenu étranger même à sa propre famille, qui ne le comprenait plus. Mais c'est comme ça qu'il nous a sauvés. Parce qu'il a aimé, il nous a aimés pour la vie. Non pas dans le sens que nous aurions peut-être voulu être aimés. Parce que nous, nous nous aimons très mal. J'entends parfois dire, oui, pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Oui, mais qui est-ce qui s'aime soi-même? Pour la vie, vraiment pour la vie. Toute la psychothérapie consiste justement à découvrir qu'on s'aime très mal. On s'aime pour la mort. Et on croit s'aimer. Et après, on dit que c'est de cet amour-là qu'il faudrait aimer l'autre. Oh, regardez-moi de l'amour des autres qui ne savent même pas s'aimer eux-mêmes. Ils ne savent même pas conduire leur propre vie pour la vie, vers la vie. Jésus nous corrige pour que nous nous aimions nous-mêmes. C'est lui qui nous permet de nous aimer nous-mêmes. Car nous nous détestons souvent. Et nous faisons ce qui n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas s'aimer, ça. On croit s'aimer, en plus. Jésus nous aime, et parce qu'il nous aime, nous pouvons nous aimer. Mais maintenant, il y a encore une chose qui a tout d'un coup amené un silence dans la foule après que le scribe et Jésus aient parlé, parce que le scribe dit aussi une chose, il dit, très étonnant, au verset 33, « Aimer le Seigneur, aimer son prochain, cela vaut mieux. Cela vaut mieux. » Que tous les holocaustes et sacrifices. Ça a amené un silence. Parce que l'holocauste, c'est celui parmi les sacrifices qui est entièrement pour Dieu. Bon, tous les autres sacrifices, on en profite aussi. Celui qui apporte le sacrifice, il en garde une partie. Il mange en famille, par exemple l'agneau pascal. Ou bien il y a une partie pour le prêtre, ça peut être des galettes de farine, il y a toutes sortes de sacrifices. Nous sommes très ignorants de toutes ces choses. Mais il y a un sacrifice très particulier, c'est l'holocauste, parce que lui, personne n'en profite. Il est totalement consumé, brûlé, et la fumée monte vers Dieu. Donc c'est ça symbolise le sacrifice vraiment gratuit pour Dieu. Nous, on ne reçoit aucun bénéfice de cela. C'est pour Dieu. Eh bien, le scribe est arrivé à cette sagesse de dire « Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est mieux que ça. C'est mieux que de faire un acte totalement gratuit pour Dieu qui ne nous rapporte rien. L'amour, c'est encore plus fort que ça. Alléluia! Nous pouvons faire des choses gratuites pour Dieu, parfois même pour notre prochain, et ça peut être sans amour. Je suis très étonné que dans 1 Corinthiens 13, Paul dit « Si je brûlais mon corps sans amour, ça ne sert à rien. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans 1 Corinthiens 13, où il parle de l'amour. Même si je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bien, j'ai trouvé un commentaire qui me donne une explication. Ça se pouvait qu'un citoyen de l'Empire romain Donc il y avait la citoyenneté romaine, qui est un homme libre, se fasse marquer au fer rouge, se fasse brûler au feu par le fer rouge. C'est la marque des esclaves. Et comme ça, il donnait la liberté à un esclave. Ça se peut que quelqu'un se sacrifie pour quelqu'un d'autre, pour prendre sa place d'esclave, et cet homme, et l'esclave devient citoyen romain, citoyen libre. Quel sacrifice plus merveilleux que celui-là, entre êtres humains? Mais Paul dit, même un sacrifice comme ça peut se faire sans amour. Il peut y avoir des passions amoureuses, où on se sacrifie pour l'autre, on se sacrifie complètement. Et c'est une passion qui peut même conduire dans la mort. J'ai enterré un couple comme ça. Passion amoureuse, ils se sont suicidés ensemble. C'est l'amour, ça? Eux avaient conscience de vivre l'amour. Mais l'amour conduit à la vie et non à la mort. Et le seul qui a vraiment offert à Dieu le sacrifice avec l'amour, c'est Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2, quand il chasse les vendeurs du temple, tout d'un coup, il y a cette phrase un peu bizarre. Ses disciples, les disciples de Jésus, se souvinrent qu'il est écrit, et c'était le verset qu'on a médité au groupe de prière mercredi, « Le zèle de ta maison, le zèle de ta maison me dévorera. » Jésus, donc le dévoré, Jésus est un holocauste pour Dieu. Mais cet holocauste est offert avec tout l'amour qu'il a pour Dieu et pour nous. Parce que dévorer en hébreu, ça signifie, c'est le verbe qui caractérise l'holocauste. Le feu dévore totalement l'animal sacrifié, le taureau sacrifié ou l'agneau sacrifié. Le feu le dévore totalement. Jésus a été totalement dévoré. Il a été offert en holocauste pour Dieu. Et il est vivant. Ça ne s'est pas terminé par la mort. Parce que ce sacrifice qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas le reproduire. Mais ce qui nous est demandé, c'est de nous laisser faire par le Saint-Esprit qui circoncit notre cœur. Pour que nous soyons associés au Christ, que nous soyons associés à sa mort, à sa résurrection. C'est le sens du baptême. Vous avez été baptisés, rappelez-vous, vous êtes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous n'avons plus à offrir le sacrifice, il a été offert une fois pour toutes, mais nous sommes associés par la puissance de Dieu. Et ça, on arrête de parler, on laisse agir la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit, personne n'osait plus l'interroger. Amen.